Dernier avertissement concernant l'espace public. L'espace public est un espace neutre, c'est-à-dire que toute manifestation d'existence singulière y représente une atteinte à l'intégrité d'autrui. Tout sera désormais mis en œuvre, mobilier urbain, décors adéquats, contrôle continu, pour rendre impossible... Qu'est-ce que c'est ? Mais qu'est-ce qui se passe ?
On va carrément réunion,
ce n'est pas une émission de radio, c'est un puits, un espace d'apparition, c'est un iceberg, un exercice de perception, un transformateur, un accélérateur, une pièce dans un mouvement.
TF1 20h avec Roger Gicquel.
Bonsoir. La France a peur, je crois qu'on peut le dire aussi nettement.
Les Français sont tourmentés. Les Français aujourd'hui sont en désarroi. Et la France est au bord de l'abîme, submergée par un triple sentiment de dépossession de
la même. France est dans une mauvaise situation.
La France est prête à faire des efforts.
Elle est prise par une sorte de spirale dépressive.
Faire admettre le contrat suivant.
La France ne veut pas de ceux qui le laissent.
Salut à tous, c'est Carmen Réunion.
Salut.
Et donc aujourd'hui, bah, comme vous l'avez compris, on va parler un peu des médias et de la construction de catégories de représentation à laquelle ils participent et la construction d'une idée dont l'histoire politique est assez bien connue, qui est effectivement la peur.
On s'est rendu compte ces derniers mois, que ce soit à travers la mort de Rémi Fraisse ou à travers les attentats de janvier, qu'en fait on se croyait assez détaché de ce qui se disait à la radio et dans les grands journaux, et que finalement même affectivement ça avait pas mal pris sur nous, et entre autres pendant tous les attentats de janvier, avec cette espèce de pression médiatique.
Le mouvement qui a suivi, le mouvement Je suis Charlie, qui est quand même ouais. Dont la part de construction médiatique est quand même assez terrible.
Et du participer,
coup, ouais, s'interroger un peu sur ce que c'est que ça, quoi.
Et sur cette construction médiatique, ouais, exactement. Et du coup, pour ça, on est allé rencontrer quelqu'un qui est professeur ici à la fac de Dijon, qui s'appelle Jérôme Berthaud, et qui est sociologue des médias, et qui a travaillé, qui a fait une thèse sur la médiatisation des banlieues, c'est-à-dire il a fait des observations pendant un an à France 2 sur comment on préparait et comment était tourné le journal télévisé de France 2. Et du coup, voilà, lui, il s'est intéressé particulièrement à la représentation autour des banlieues, ce qui l'a obligé à travailler beaucoup, entre autres sur les liens entre les journalistes et la police, et les différents organes policiers, quoi.
Ouais, voilà. Donc l'émission va être, c'est le fruit d'un long entretien qu'on a eu avec lui, dans lequel on a été un peu obligé de couper, mais ça en fera quand même beaucoup. Et donc voilà. Et effectivement, ça va beaucoup tourner autour de cette question des liens entre journalistes et police, à la fois pour dans une entente réciproque pour faire une circulation d'informations, hein, qui est dont les journalistes ont besoin et dont la police ayant besoin d'une couverture médiatique d'autre part. Donc cette espèce d'entente cordiale entre police et journalistes. Et dans la fabrication, l'invention de catégories de pensée qui viennent du monde policier, puis qui sont repris à bon compte par facilité, mais aussi par volonté d'effets spectaculaires par les journalistes.
Et donc on commence par un premier entretien où on parle avec lui de la situation à Grigny, parce qu'il y a un mois on était allé à Grigny, on avait parlé un peu des répercussions des attentats de janvier à Grigny, là où est issu Hamedi Coulibaly, et du coup on a interrogé Berthaud un peu sur la construction médiatique autour de Grigny. Dans l'émission qu'on a fait à propos de Grigny et de la situation à Grigny après les attentats, Afid il nous racontait qu'il y avait eu une surmédiatisation de Hamedi Coulibaly par rapport au frère Kouachi, parce que justement il venait des banlieues.
C'est sûr que l'avantage, c'est que y a un ensemble de choses. C'est que ça permet de mobiliser des cadrages qui existent déjà, donc dont vous parliez tout à l'heure, c'est-à-dire le fait que bah, voilà, les quartiers populaires comme lieu de toutes les déviances et notamment de pratiques religieuses extrémistes, hein, le cadrage est vite fait. On sait, ça se traduit immédiatement par tout un dispositif de tournage qui est facile à envisager, c'est-à-dire ok, donc il va me falloir un imam, il va me falloir des copains d'Amédie Coulibaly, etc., etc. Les logiques de production d'information, de productivité sont très pesantes dans les choix de reportage et surtout dans les lieux qu'on va filmer. Et Grigny a souvent été aussi très médiatisé, tout simplement parce que Grigny, ça a l'avantage d'être au sud-est de Paris. Et c'est beaucoup plus pratique d'aller tourner sur place quand en plus on a un interlocuteur, un intermédiaire qui facilite le travail des journalistes qui est particulièrement dévoué. Le fait qu'on a un intermédiaire et qu'on soit pas trop loin de la rédaction de France 2, ça favorise les virées sur le terrain. On parle beaucoup de la Seine-Saint-Denis, mais moi j'avais constaté qu'à France 2, le reporter qui, à l'époque où je travaille sur la rédaction, est le spécialiste banlieue et produit le plus de sujets sur les quartiers populaires, en fait, il va plutôt dans l'Essonne et dans le Val-de-Marne parce que c'est situé au sud de Paris et que c'est plus facile à accéder. Donc Grigny a cet avantage-là aussi, un avantage purement géographique. S'il faut retracer le chemin des frères Kouachi, ça vous emmène voilà, dans le Massif central, à Reims, à Aubervilliers ou Gennevilliers, je crois que c'est Aubervilliers. Donc voilà, ça commence déjà avec des conditions de tournage pour localiser des gens, c'est très compliqué. L'autre raison aussi, c'est que vous avez des acteurs politiques à Grigny qui sont aussi à même de prendre position sur la situation locale, les conditions d'existence à Grigny, les problèmes qui se posent à Grigny et de déviance qui se posent à Grigny. Et c'est ce qu'on a vu avec Malek Bouti. Donc vous avez toute une série d'interlocuteurs, de protagonistes pour construire votre reportage, qui vont fournir même des grilles de lecture, des grilles d'analyse, qui sont disponibles. Trouver quelqu'un qui a quelque chose à dire sur la situation des frères Kouachi dans le Massif central, ça va être déjà un peu plus compliqué. Les conditions de production ont beaucoup plus de poids, on peut le penser. Il y a souvent une censure au sens où on traite tel sujet et pas tel autre pour des questions de conditions de production, de productivité.
Un prix dans le carcan d'urgence, quoi. Voilà. Ce qui vaut pour des chaînes de télé.
Mais ce qui est dingue, c'est de voir que même dans des émissions comme Envoyé spécial, on se rend compte qu'on ne sort pas d'un certain formatage de l'information, puisqu'en fait, l'économie des médias, les contraintes de productivité fait qu'on on retombe d'autant plus sur des scènes qu'on a déjà tournées, des scènes qu'on sait tourner. Et ce qui est intéressant, c'est que si on prend par exemple le traitement médiatique des attentats de janvier, donc on a eu les chaînes généralistes type TF1, France 2 qui sont devenues des chaînes d'information continue pendant quelques jours et les présentateurs se sont succédés à l'antenne pour couvrir en direct. Alors déjà, voilà l'état des lieux de la tuerie. Et puis ensuite, effectivement, c'est devenu des éditions sur la traque le jeudi. À partir du jeudi soir, ça devient vraiment la traque. Mais ce qui est intéressant, c'est que précisément pour tenir l'antenne, non seulement pour tenir l'antenne, mais pour pouvoir savoir où filmer, où se joue prochaine scène à filmer, à médiatiser, il faut des relations avec la police. Et donc, on avait en plateau beaucoup d'anciens flics, d'anciens juges antiterroristes, d'anciens responsables du RAID, du GIGN ou de la police nationale. Et on avait un autre acteur qu'on voit très rarement sur les plateaux de télé, c'est les rubricards police. C'est le journaliste en charge des relations avec la police dans les rédactions. Et donc toutes les grandes rédactions nationales ont un rubricard police. En fait, leur boulot, c'est en permanence d'accumuler des infos et de les redispatcher aux reporters qui font les rédacteurs, qui font les sujets. Et donc, on avait en plateau Audrey Doutard, qui est la rubricaire police de France 2, qui a fait l'IHESI, notamment, et qui, en permanence, on voyait, recevait des textos sur son téléphone et qui devait être en contact permanent avec ses contacts policiers. Qu'elle, nous, on continue, tout ne vient pas de l'IHESI, parce que c'est quelqu'un, on m'a expliqué, elle passe son temps à aller déjeuner et prend des petits déj avec la police pour entretenir son réseau policier. Quelqu'un qui est habituellement plutôt dans les coulisses de France 2, qu'on voit très peu à l'antenne, là, et y compris, elle a très peu de sujets, on entend très peu sa voix sur les sujets à l'antenne. Là, on la voyait quasiment travailler en direct sur le plateau parce qu'on avait plus le temps, comme tout était quasiment en flux tendu, on n'a même pas le temps de la voir backstage pour ensuite donner l'info. Elle est directement sur l'info, elle est sur le plateau, elle donne l'info en direct. Et ce qui est intéressant, c'est que si on regarde quels sont les autres membres de la promo d'Audrey Goutard, on retrouve non seulement des grands flics comme Pechnéard, qui était le patron de la police nationale et qui est le directeur de cabinet de Nicolas Sarkozy maintenant, et des gens des renseignements généraux, toute une série de grands policiers ou de grands gendarmes du GIGN, etc. Donc on voit bien que les informations elles peuvent venir vraiment de façon quasiment directe de ces services, mais aussi, ce qui est intéressant en cas d'Audrey Goutard, c'est que si vous regardez du côté des politiques, elle a Christian Jacob, quand même responsable du groupe UMP à l'Assemblée nationale, et elle a Benoît ou Bruno Leroux, le responsable du groupe socialiste à l'Assemblée nationale. Donc on voit même comment ces catégories de pensée, elles peuvent circuler. Si on veut essayer de comprendre la forme d'homogénéité du discours qu'on a eu sur l'unité nationale, c'est pas simplement des grilles de lecture comme ça qui infusent dans l'air du temps et que les gens intériorisent. C'est que, précisément, c'est des gens qui, à un moment donné, se sont retrouvés dans les mêmes pièces, ont écouté la même formation. Il y a des vraies relations sociales qui sont derrière. Après, ce qui est intéressant du point de vue des journalistes, c'est que ça a permis de réactiver, y compris dans une rédaction comme France 2, qui avait été en pointe sur la médiatisation de la mort de Raled Kalkan. Donc on a vu témoigner des anciens reporters de France 2 qui disaient « Oui, bah nous, à l'époque, etc., on avait suivi la traque, on avait filmé ça, suivi l'intervention de la police. » Donc, je pense que la traque est d'autant plus médiatisée dans les rédactions que ça renvoie à des souvenirs professionnels et ça renvoie aussi, au-delà du souvenir, ça renvoie à des réussites professionnelles, ce qui est perçu au sein de la profession comme des modèles d'accomplissement, comme des modèles de réussite professionnelle.
Il s'appelle l'inconsolable.
Question. Qui a déjà, non pas pressé la détente, qui a pressé le pays dans une impasse inquiétante, qui a tué Charlie puisque ce n'est pas Omar Haddad, ni quelques barbares débarqués de Ramallah ou Bagdad, qui a tué Charlie, qui sont donc les frères Kouachi, sinon le produit de ce que la France a fait d'eux, qu'elle a mis sur les rails du terrorisme, qu'elle entend combattre, qu'a fait la France à ses jeunes pour qu'ils veuillent autant se battre, qu'a fait la France à l'islam, qu'a pris la France à l'Afrique, qui explique en partie le drame, qui n'en est pas moins tragique, qu'a fait la France d'infâme, qu'est-ce que la France Afrique, qu'est-ce que la France cache mieux que n'importe quelle voile islamique, peut-on penser des vêtements en dehors de ce qu'il a produit, en dehors des éléments que la France y a introduit, l'affaire des caricatures, le quinquennat de Sarkozy, soutien aux dictatures d'Afrique et le fric des armes aussi, et la guerre d'Algérie, l'Afghanistan, l'Irak aussi, Chirac aussi, sur le bruit et l'odeur, les propos de Valls aussi, Michel Alliot, Marie proposant de l'aide à Ben Ali, les lois liberticides sur voile, elle n'est pas belle la vie. Et qui sont ces rejetons rejetés que le pays renie, qu'on montre du doigt, traite de monstre lorsqu'il quitte le nid. Quelle ironie qu'on nie toute responsabilité dans ce que la vie a fait de concret à la débilité. Combien sont les victimes, qui y est éligible, l'est-on moins lorsqu'on détruit sa vie par un terrible crime, mourir à 30 piges, que faut-il pour que les gens pigent, ils s'imaginent qu'il s'agit de leurs enfants, sans quoi ils s'en fichent, n'y a-t-il pas 20 morts, n'aura-t-on encore plus sûrement, pas le tort d'en faire payer le prix fort à tous les musulmans, t'as vu que sur ce plan, on ne traîne plus, on n'a plus qu'en, quand il s'agit de faire payer aux pratiquants. En 4 jours, combien de preuves d'amour pour combien d'agressions? Combien a-t-on l'impression que nous les dépressions? Si le calme est parti avec Charb et Charlie qui portent une partie de la responsabilité pardi, qui fabrique les terroristes, les armes et les légitimes, et qui mine de faire crise mine lorsqu'ils font des victimes, à qui profitent les crimes, quel état, quel régime, dans quel état sont les gens, où l'état les entraîne-t-il, est-ce tant débile d'être sceptique, de se poser des questions, est-ce tant pénible d'être critique, de pousser à la réflexion, est-ce donc ridicule ces types défilent pour la libre expression, Sarkozy ou Netanyahou, les rois de la répression, qui organise à l'assassinat de journalistes à Gaza, qui pour censurer fait 8 ans de procédure et ne lâche pas, dans ces gars-là, appelle-t-à la liberté, permets-moi de douter.
déclare sincérité, comment veux-tu je crois ça?
Je suis Charlie.
Est-ce à dire qu'on déplore l'attentat? Ou alors qu'on est d'accord avec leur ligne de haut en bas? Cela veut-il dire qu'on défend une liberté sans faille? Ou alors que les musulmans ce serait sûrement mieux qu'ils s'en aillent? Dois-je être Charlie pour part qu'on suspecte? Dois-je faire campagne pour pouvoir prouver que je désapprouvais effectivement le drame? Dois-je être Charlie pour qu'on me respecte? Mais qu'est-ce qu'on gagne à être Charlie avec Orban et Erdogan? Où est Charlie dans tout ça? Ou dans l'unanimisme et la liberté dont se pousse? Tu parles pas de pluralisme, moins d'activiste que d'arriviste. En tout cas, nos braves ministres qui là s'activent souvent pourtant ne bougent pas. Quand la victime n'est pas un journaliste, mais Ziad Oubouna, l'auteur du crime n'est pas un djihadiste, un sale bamboula, un islamiste, un salafiste, oui, car là ça y va. Mais un agent de police qui n'est pas plus novice dans l'art de tuer l'office qu'Al-Qaïda. Qu'on se rassure, cela dit, Price Ministère et Charlie, la bourse est Charlie, Google est Charlie, Facebook est Charlie, Apple et Amazon sont Charlie, Yahoo est Charlie, même les trois Suisses sont Charlie, plus belle la vie est Charlie, si tous sont Charlie, si les multinationales s'y rallient, les sites de vente en ligne, les entreprises capitalistes et la bourse, si tous leurs ennemis sont Charlie, alors une question m'anime, au fond, où est Charlie?
Voilà, c'était l'inconsolable, où est Charlie? Et donc on écoutait Berthaud à propos des attentats.
Vraiment inconsolable, mais nous aussi. Alors écoutez.
Et du coup, on a entendu Berthaud qui parlait des attentats de janvier, un peu de la construction médiatique. Et on va continuer. Il va nous parler de plutôt la construction des représentations et des catégories journalistiques et des liens entre les journalistes et la police. Oui, Jim, tu voulais qu'on avoue que nous aussi on mentait, c'était ça?
Ouais, parce qu'on entend quand même au début de l'entretien précédent, la fin des deux entretiens précédents, qu'il y a clairement un montage qui est pas fait de manière très finaude. Alors bon, ouais, faut le reconnaître, nous mentons perpétuellement dans cette émission.
Non, mais on rassure Jérôme Berthaud, on lui fait pas dire des trucs qu'il aurait pas voulu dire.
Non, par contre, on garde les...
Mais par contre, juste... oui, il s'agit pas de cracher sur les médias pour dire que leur construction elle est fausse et qu'on en appelle à un rapport à la vérité, quoi.
C'est ça. Nous, on assume de n'être absolument pas objectif. On n'a pas de mythe journalistique dans lesquels se fondre. On fait pas ça pour ça. On assume le regard qu'on porte sur le monde et c'est pour ça qu'on a eu envie de le faire, enfin de porter un peu plus loin grâce à une émission radio, quoi.
Ouais, mais ce qu'il y aurait à dire sur les médias en général, c'est plutôt que eux ont la prétention, par contre, d'agir par objectivité. C'est quelque chose que d'ailleurs Jérôme Berthaud nous a pas mal expliqué, leur espèce d'éloignement au monde militant et de toujours dire que ce qu'ils font, c'est pour montrer la vérité et que autre chose ce serait prendre parti. Quand on leur demande par exemple pourquoi ils sont pas un peu plus du côté, pourquoi ils montrent tel regard sur la banlieue, par exemple. Les gens vont dire que ils montrent la délinquance telle qu'elle est véritablement et que essayer d'adoucir cette vérité ce serait faire du militantisme et que eux ils sont pas militants et que eux ils détiennent une espèce de vérité sur le monde et du coup de casser un peu ce truc là quoi et de dire que non il s'agit pas d'essayer d'établir un rapport à la vérité, il s'agit d'affirmer un peu dans quel camp on se trouve quoi et qu'est-ce que c'est le point de vue que on soutient sur le monde. Et du coup, on se disait que la manière dont Jérôme Berthaud il montre les liens entre les journalistes et la police, par exemple, ça permet aussi de un peu voir un peu plus clair de quel point de vue ils parlent et avec qui ils construisent leur vision du monde. Quoi. T'as rien à rajouter à ça? Bon, du coup, on peut écouter l'enregistrement suivant où justement il nous parle des rapports entre les journalistes et la police.
Alors c'est vrai que le bouquin, l'étude à France 2, comme dans les autres médias où j'ai pu aller, n'était pas spécialement focalisée sur les sources des journalistes, donc qui très souvent sont ceux qui façonnent les catégories de pensée qui vont ensuite circuler. Donc, c'est déjà quelque chose qui avait été assez travaillé, la question des sources. Donc il y a déjà des travaux comme ceux de Laurent Bonelli sur les renseignements généraux qui montrent comment la catégorie violences urbaines, elle a été forgée dans les services des renseignements généraux au tournant des années 90, à un moment donné où la place des services des renseignements généraux est un peu menacée parce qu'il y a eu toute une série de scandales qui a émaillé le fonctionnement de ce service. Et par ailleurs, si on est dans l'idée que c'est l'effondrement du bloc de l'Est, donc surveiller les militants communistes, d'extrême gauche, etc., ça n'a plus tellement de sens, c'est plus une menace. Donc du coup, à quoi servent ces services, hein? Et à ce moment-là, il y a les dites émeutes à Vaux-en-Velin, et donc il y a une réorientation de ces services sur les questions de voilà des violences urbaines, et donc les renseignements généraux vont commencer à élaborer des grilles, des échelles de dangerosité des quartiers. Vous avez une commissaire des renseignements généraux qui va créer une échelle vraiment de mesures, donc c'est-à-dire que s'il y a elle va compter le nombre de poubelles brûlées, de voitures brûlées, de prix de bus cassés, donc vous avez, c'est un premier degré. Et puis après, on va monter jusqu'à l'émeute, etc. Donc voilà, donc ça, c'est Laurent Bonnery qui a bossé là-dessus. Mais après, vous avez des études de quelqu'un comme Sylvie Tissot qui a bossé sur la construction de la catégorie quartier sensible, donc plutôt du côté des ministères de politique de la ville, et qui montre comment, notamment avec certains sociologues, ils ont forgé cette catégorie quartier sensible. Et en fait, ce que montre très bien Laurent Bonnery, des chercheurs comme ça, c'est que ça va être des catégories qui sont particulièrement bien adaptées aux prêt-à-penser journalistiques, facilement mobilisables et qui permettent immédiatement de convoquer des images et ensuite de le traduire en reportage. Donc elles vont être voilà. Donc effectivement, ces sources journalistiques, elles ont beaucoup de poids. Et moi, je me suis plutôt situé du coup du côté des reporters. Et on voit bien comment, par exemple, à l'époque, c'est Nicolas Sarkozy qui est ministre de l'Intérieur, les prises de position de Nicolas Sarkozy, au moins, elles génèrent des discussions contre l'ordre d'action sur est-ce qu'on traite ce sujet-là ou pas. Mais ce qui m'intéressait surtout, c'est de montrer que c'est une chose d'avoir une source qui prend une position et une source qui fait autorité. Alors, et s'il y a bien une source qui fait autorité, c'est bien le ministre de l'Intérieur. Mais ce qui est intéressant, c'est de montrer comment il y a des effets de surenchère autour de certains sujets qui sont liés à la concurrence qui existe au sein des rédactions. Et là, vous avez, face au rédacteur en chef qui a le monopole sur la définition des sujets et sur l'inscription simplement du sujet au sommaire du JT, vous avez des chefs de service qui sont en compétition entre eux pour essayer d'inscrire des sujets au sommaire du JT et donc à s'aligner sur les attentes des responsables du JT.
Cette question des catégories nous intéresse parce que c'est aussi comme ça que va être conçu après qu'on conçoit le monde. Et jusqu'aux années 80, on parlait tout le temps d'ouvriers et où, du jour au lendemain, dans les années 80, on se met à parler d'immigrés. Il y a une substitution comme ça du vocabulaire, d'un vocabulaire social, on va dire, un vocabulaire racial pour désigner, pour traiter deux questions qui sont toujours des questions sociales, quoi. Du coup, comment un directeur du JT, il choisit, il se dit, là, il y a telle catégorie, celle-là, en gros, elle a de la valeur, quoi. Elle va faire scoop parce qu'elle n'existe pas encore, enfin, elle n'a pas encore tout son intérêt, quoi.
J'ai tendance à penser que les journalistes n'inventent pas grand-chose, en fait. Ils ont plutôt tendance à reprendre des discours qui circulent. Ils ne forgent pas tellement de catégories par eux-mêmes, en fait. Je pense qu'on pourrait apprendre à partir du moment où Daesh, par exemple, surgit. C'est plutôt, à mon avis, le Quai d'Orsay ou certains spécialistes des relations internationales, la diplomatie ou que sais-je, qui, à un moment donné, ont considéré que c'était un vocable qui, en tout cas, permet de soutenir les points de vue qu'ils souhaitent défendre. Mais après, ce que l'étude montre, c'est que vous avez des lieux où ces catégories, elles vont être mises en circulation. Et alors, il ne s'agit pas de tomber dans une représentation complotiste ou quoi, mais il se trouve qu'il y a des institutions qui se prêtent plus que d'autres encore à faire circuler ces catégories, notamment de l'ordre sur les questions de maintien de l'ordre. Et par exemple, un lieu comme l'Institut des hautes études de la sécurité intérieure, alors qu'il a changé plusieurs fois de nom, il ne s'appelle même plus comme ça maintenant parce qu'ils ont fusionné défense et sécurité intérieure, ou justice et sécurité intérieure, maintenant c'est ça, ils ont fusionné ces deux instituts. Donc ce sont des organisations qui dépendent au départ du ministère de l'Intérieur ou de la Justice, mais maintenant qui peuvent être directement rattachées à Matignon. Le propre d'une des fonctions principales de l'Institut des hautes études de la sécurité intérieure, bon, c'est de produire une expertise sur la sécurité, mais c'est aussi de former les gens. Donc depuis, je crois, les années 90, ça date à peu près la même période que concept la notion de violences urbaines, vous avez donc tous les ans une centaine de personnes, par du temps qui sont des policiers, des gendarmes, mais aussi des pompiers, des vétérinaires, tous les métiers qui sont concernés par des enjeux de sécurité. Alors ça peut être sécurité alimentaire, sécurité animale, mais bien plus souvent le domaine du maintien de l'ordre plus classique, contre l'insécurité, etc. Donc quand même surtout des policiers, des gendarmes, des magistrats, qui occupent déjà des positions relativement, des positions intermédiaires et plutôt dans la partie haute de l'organigramme, et qui ne sont pas encore les grands responsables de la police, de la gendarmerie au niveau national, mais qui sont promis à le devenir. Et donc, vous avez tous les ans une centaine de professionnels de ces différentes organisations qui viennent se former. Je crois que c'est 4 jours par an pendant 10 mois, en continu, aux enjeux de la sécurité en France et à l'étranger. Et ce qui m'intéresse, c'est que parmi ces 100 auditeurs, on appelle ça des auditeurs, on garde quelques places, à peu près 3-4 places pour des journalistes et quelques places pour des responsables politiques. Et donc, vous avez comme ça, aux côtés de ces futurs responsables de la sécurité intérieure, vous avez des journalistes et des responsables politiques qui viennent voilà, se familiariser à ces questions de sécurité. Alors, ils viennent pas forcément d'ailleurs pour apprendre des choses, en tout cas, c'est pas la motivation principale du côté des rédactions. Et en fait, donc, ils vous expliquent, les journalistes de France 2, qui vont là-dedans pour surtout faire du réseau. Et pour faire beaucoup de faits divers, vous avez besoin de beaucoup de relations avec la police. Et donc, on se dit, c'est le bon endroit pour nouer des relations de familiarité, de proximité avec les responsables policiers et pour ensuite être les premiers avertis quand il y a une descente de démantèlement d'un réseau islamiste ou de trafic de stupes dans tel ou tel quartier. Et on vous assure que vous serez les seuls, donc vous avez l'exclusivité des images. Donc voilà, c'est pour avoir ce type de relations privilégiées qu'on va dans ces formations. Mais ce qui est intéressant par-dessus tout, c'est que les journalistes vous disent « Moi, au début, j'allais dans ces formations-là pour faire du réseau. Ça ne m'intéressait absolument pas. Moi, j'avais une représentation de la police de gens un peu neuneux, un peu bêtes, etc. Du front, en gros. Et en fait, pas du tout. C'était passionnant. J'ai appris beaucoup de choses. La sécurité intérieure, c'est un vrai concept. Il y a des gens très intéressants qui réfléchissent à ça. Textuellement, ils vous expliquent ça. Il y a des énarques. Il y a des polytechniciens. On n'imagine pas, au ministère de l'Intérieur, le niveau intellectuel de ces gens-là. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que ça convertit les journalistes qui vont là-bas, à ces enjeux, à l'importance de ces enjeux, et surtout que ça va les doter d'un argumentaire qu'ils vont pouvoir ensuite, de retour dans la rédaction, utiliser pour justifier qu'on traite de tel ou tel sujet et défendre certaines grilles de lecture de l'actualité, notamment sur les questions de maintien de l'ordre, de surveillance des quartiers, des réseaux islamistes, etc.
Ce qui est intéressant dans ce qu'il dit là, Jérôme Berthaud, on se disait, c'est que ça permet aussi d'avoir un autre rapport au complotisme et au lieu du complot.
Ouais, parce que effectivement, en soulignant là, cette imbrication entre police et journalisme, de par la construction de catégories de pensée, l'élaboration de réseaux, où on fait circuler d'informations, où on se file des coups de main, où on s'échange des manières de voir, etc. On pourrait imaginer que, en particulier en parlant d'un institut comme ça, on pourrait imaginer qu'il y a un complot derrière, on nous ment, en plus on nous tape dessus. En fait on est faible et on peut rien faire face à ça parce que tout est déjà joué d'avance. Et en fait non, hein, c'est un institut qui a rien de secret, qui est su de tous. Et Jérôme Berthaud, c'est un intérêt de son approche, c'est que même presque il prend trop de précautions avec ça. Il va souvent répéter dans son livre s'attaquer au conspirationnisme et à la possibilité d'un complot, quoi. Il met plutôt en lumière des mécanismes et le fonctionnement de ces mécanismes. Et en particulier dans le rapport police-journalisme, en fait, c'est juste des intérêts réciproques qui font que, comme je le disais au début, la police a besoin d'une couverture médiatique et qui renforce l'opération policière. Et d'autre part, les journalistes ont éminemment besoin de la police
pour avoir des informations.
Et donc voilà, il chouchoute un peu la police. On verra ça d'ailleurs un peu plus loin à propos des journaux locaux où c'est assez caricatural. Du coup, pour Berthaud, lui, il s'intéresse essentiellement à comment opère ce petit monde de l'intérieur, c'est-à-dire les réseaux, les rapports de pouvoir à l'intérieur du monde journalistique, la circulation d'informations à l'intérieur de ce monde-là, comment on se regarde, comment la concurrence et le fait que on essaye de dire plus haut et plus fort que les autres, et comment il y a une course comme ça aux faits divers. Juste pour donner un autre regard là-dessus, on peut aussi s'intéresser à ce lien entre médias et police sous l'angle de l'opération qui est produite. Et c'est par exemple ce que fait Mathieu Rigouste, qui est également sociologue, je ne sais plus dans quelle université, ce n'est pas très intéressant, de toute façon, et pas très important. Et donc il nous dit, la contre-insurrection est une technique de guerre contre les partisans qui se saisit de la population. Les sociétés de contrôle ne cherchent pas à détruire ce qu'elles désignent comme leur ennemi intérieur, elles les produisent pour mieux encadrer des populations milieu. Les sociétés de contrôle chassent des émeutiers pour mieux tenir les classes populaires. Elles sélectionnent pour cela certains quartiers qu'elles transforment en réserves de proie où sont régulièrement lâchées leurs meutes médiatico-policières. Le problème réside dans le fait que pour fonctionner, ces polices de harcèlement ont besoin d'être relativement autonomisées. Il faut les laisser agir selon leur désir de puissance. Mues par la brutalité et la frustration, ces polices ont ainsi tendance à employer le meurtre comme technique régulière, ce qui coûte cher symboliquement et nécessite une couverture médiatico-judiciaire beaucoup plus lourde. D'ordinaire, le meurtre policier n'est intéressant que dans la mesure où il est motivé par un montage, lorsqu'il sert de provocation. L'industrie du contrôle règle ce problème en tirant bénéfice de n'importe quelle opération de rétablissement de l'ordre et en achetant les grands médias pour s'assurer une couverture correcte. Donc là, c'est vraiment dans le ce qui souligne et ce qui est un peu intéressant dans ce qu'il dit, c'est juste pour opérer un petit déplacement par rapport à la teneur de notre émission d'aujourd'hui où et mettre en avant qu'il y a aussi un effet politique et une opération de une opération politique de contre-insurrection dans cette alliance objective d'intérêt entre journalisme et monde médiatique et monde policier. Un autre aspect qu'on pourrait mettre en avant qui nous touche particulièrement, c'est la question des constructions de ces catégories médiatico-policières et à nouveau l'effet qu'elles produisent, et en particulier dans les mouvements sociaux dans les situations de révolte. À quel point ces catégories sont affaiblissantes, c'est-à-dire produisent des séparations entre, d'une part, les bons manifestants, et c'est-à-dire ce que doit être une manifestation, et le mauvais manifestant, le casseur. Et de la même manière, dans le reportage qu'on verra un peu plus loin d'Envoyé spécial sur les quartiers, et dans quasiment tous les reportages sur les quartiers populaires, on a cette espèce de dichotomie d'ambivalence entre, d'une part, des vieux, des personnes âgées qui seraient agressées et victimes d'une jeunesse incontrôlable, vendeuse de drogue, etc. Enfin, du coup, le bon et le mauvais, alors que la complexité du vivant et des territoires fait qu'en général, c'est toujours imbriqué et que c'est des réalités qui échappent complètement au regard à la fois médiatiques et à la fois policiers, qui sont pas capables d'en rendre compte, qui sont pas capables de le comprendre. Et toujours est-il que ces séparations, elles permettent vraiment construire un monstre à éradiquer, et donc par la construction de ce monstre à éradiquer, qui serait tout ce qu'il y a de plus dans la normale, de monstrueux, quoi. Ça définit positivement ce que doit être le citoyen, la mobilisation politique, ce que doit être. Et en fait, cette opération de construction d'un monstre à éradiquer, comme j'ai dit, c'est une production perpétuelle du peuple et du citoyen. Et ça, on le voit de manière assez assez féroce et assez brutale autour des événements du 11 janvier, où on a d'un côté, on pointe du doigt les animaux à abattre et on met en scène une traque, et d'un autre côté on construit une immense communion populaire qui est censée redéfinir la place du peuple en France qui aurait été apathique et qui d'un coup en fait se réveille et monte son existence. Mais c'est de part et d'autre, il y a vraiment une opération de fabrication, quoi.
Ouais, tu parlais de situations d'émeutes ou de manifestations et de situations de banlieue. J'ai l'impression que cette opération-là, elle touche de toute façon, c'est un peu ce que tu as dit, toute la délinquance, quoi. Donc les constructions médiatiques, enfin, on a lu beaucoup de choses cette semaine aussi sur tous les reportages télévisés sur la prostitution, sur les réseaux de deal, etc. Et comment à chaque fois on va construire une figure de la délinquance qui va permettre ensuite de la saisir effectivement juridiquement et policièrement, quoi. Et on peut penser plus récemment à Dijon, dans les choses qu'on a parlé ces derniers mois, aussi de l'idée de marginaux, par exemple, pour parler des gens de la rue, que le bien public avait mis un peu en avant en disant voilà, c'est plus des SDF ou je sais pas quoi, c'est des marginaux, c'est des gens qui se sont mis en marge. Du coup, ça va permettre de les capturer aussi juridiquement plus facilement ou policièrement. Ou alors plus largement aussi de l'idée de casseur dans les manifestations, qui est une notion aussi qui a été inventée et promue par cet appareil journalistico.
Dans les années 70 d'ailleurs, c'est une pure invention qui a suivi mai 68, le terme de casseur qui est destiné à... C'est une opération policière à part entière qui est destinée à affaiblir tous les mouvements politiques des années 70 et où une forme de conflictualité... assez féroce avait fait jour, quoi, contre la police, contre le monde de cette époque-là. Et du coup, pour s'y attaquer, on a produit une séparation entre les formes légitimes de contestation et la forme illégale et inacceptable qui doit être broyée et éradiquée.
Et on va écouter un extrait encore de Jérôme Berthaud qui nous parle de la dépêche du midi, et ça permet aussi un peu plus d'éclairer le rôle du bien public, par exemple à Dijon.
Quand j'ai travaillé sur la presse quotidienne régionale, donc je fais tout un terrain à Toulouse sur la dépêche du midi, on voit bien que quand au niveau national on sort des statistiques des taux d'élucidation par exemple de la police qui vont être défavorables, c'était le cas. Vous avez un traitement de l'efficacité policière au niveau national qui va plutôt pointer Toulouse comme mauvais élève de l'efficacité policière. Au niveau local, dans le quotidien régional, on va faire le travail de réhabilitation inverse en donnant la parole aux responsables policiers locaux, aux directeurs de la police locale, pour s'expliquer. Alors là, pour le coup, pas s'expliquer au sens rendre des comptes et faire un mea culpa, mais plutôt... pour expliquer pourquoi eux, à Toulouse, c'est difficile pour eux, alors probablement le manque d'effectifs, etc. Et donc, le joint local le fait d'autant plus spontanément et avec bonne volonté que l'importance, c'est important pour eux d'avoir des bonnes relations avec la police locale pour pouvoir remplir les pages de faits divers. C'est-à-dire qu'à Toulouse, à l'époque en tout cas, la page 3, donc là, quand vous tournez la une, vous tombez à droite sur la page 3, c'était une page fait divers intégrale, en fait, dans le cahier local de Toulouse. Et l'air de rien, remplir une page complète de fait divers, c'est pas si simple, en fait. Donc vous avez besoin de pouvoir aller tous les jours au commissariat et qu'on vous ouvre la main courante, l'accès aux informations policières pour pouvoir remplir la page. Et donc, du coup, c'est un peu ce qu'on appelle en sociologie un don contre don. Donc, en échange des informations, nous, on contribue à revaloriser l'image de la police quand on le juge nécessaire. On voit bien le contre-don en termes de production journalistique qu'il y a derrière, parce qu'il faut pouvoir... on pourrait imaginer, finalement, que les journalistes toulousains s'alignent sur le traitement national. Mais on voit bien que quand le lendemain, ils vont aller au commissariat pour, comme d'habitude, pouvoir collecter tous les événements de la nuit passée. Bon, on va leur taper sur l'épaule en disant « Dis donc, t'es bien content de récupérer les données, mais vous nous en avez mis une bonne quand même ce matin dans les pages. » Et ça, c'est des problèmes de relations quotidiennes que les journalistes évoquent. C'est pas une spéculation que je fais. Ils disent que ils ont des relations de familiarité à entretenir et qu'ils ne peuvent pas se permettre. Ils disent « S'ils nous coupent le robinet à faits divers, on est mort. » Les efforts qu'on devra déployer pour récupérer ces informations-là vont être très très durs à compenser. Donc ça peut être ça, ça peut être l'accès. Et après, il faut aussi ça se retraduit aussi dans la façon de ménager les sensibilités des différents services. Donc, il faut, par exemple, à Toulouse, ils faisaient très attention quand c'est une opération de la police, ne surtout pas se tromper et mettre une photo de la gendarmerie, parce que là, on va se voir reprocher que, ah oui, comme d'habitude, vous valorisez les gendarmes, alors c'est une opération de police. La police aussi fournit des images, c'est-à-dire que très souvent, un sujet, on va le mettre à la une parce qu'on a des images. Si on n'a si pas d'images importantes, même dans la presse quotidienne, on ne va pas forcément le mettre en tête de page. Donc, pour récupérer les images de vidéosurveillance, pour récupérer toutes sortes d'images, on a besoin de la police. Donc, il y a comme ça des relations de don contre don. Il y aurait toute une étude à faire aussi sur toutes les remises de médailles, tous les départs en retraite. Dans la presse quotidienne locale, il y a énormément de sujets sur les départs en retraite, les nominations du nouveau commissaire, etc. Ça ne peut se comprendre que si on sait que ce commissaire qui vient d'être nommé ou qui part en retraite, c'est soit une forme de remerciement pour les services rendus à l'égard de la cause journalistique ou pour favoriser les futures relations sur lesquelles on compte s'appuyer pour pouvoir construire les pages de faits divers. Donc, effectivement, vous avez raison de dire qu'il faut penser aussi les effets de la médiatisation sur les policiers.
Et donc, ouais, ce qu'il dit là, ça nous fait pas mal penser à une situation qu'on connaît assez bien chez nous, avec l'étendue de pages de faits divers du bien public. Et, où,
et les pages de remerciements pour les fonctionnaires qui partent à la retraite, là, ce qu'il dit aussi.
Ouais, ouais.
On s'en tape souvent.
C'est ça c'est très chiant, mais bon. Et c'est assez marrant parce que les flics regardent le bien public pour avoir leurs informations, et le bien public va demander aux flics. Donc il y a un truc comme ça, une proximité qui est complètement folle à Dijon entre police et bien public. Bon.
Mais effectivement, on lit hyper régulièrement des articles, mais inintéressants, qui disent voilà, rue machin, trois feux de poubelle hier soir. Sans aucune signification, rien. Et tu vois très bien qu'ils sont juste allés chercher les mains courantes des CAF pour remplir leur page de faits divers et basta, quoi. En tout cas, t'as vraiment cette impression-là, quoi. Du coup, ça s'éclaire à l'aune de ce qu'il dit, là, quoi. Pour continuer, on voulait parler justement de cette idée de faits divers. Tu voulais rajouter quelque chose sur les biens publics? Non, c'est fini. De cette idée de faits divers, parce que dans le bouquin de Jérôme Berthaud, La banlieue du 20h, il parle un peu plus précisément d'une espèce de tournant, je crois que c'est l'année 2001.
Oui, là, en 2001, ouais, ou 2002.
De tournant qui va accompagner justement le tournant sécuritaire en France, ou qui va le préparer, je sais pas trop dans quel sens ça se fait, et où il va y avoir des choix de mettre en avant les faits divers par rapport à avant, où peut-être il y avait plus de chroniques politiques ou économiques ou sociétales, je sais pas. En tout cas, on va décider d'accorder plus de place, et dans la presse écrite et dans les journaux télévisés, aux faits divers. Et du coup, on comprend comment, ben voilà, quand on met en avant, qu'on visibilise toute une sorte de petits faits de délinquance, parce que les faits divers, c'est souvent ça, et ben ça va permettre d'accompagner une espèce d'ambiance de peur qui va à laquelle va répondre des politiques sécuritaires. Il y a un petit extrait de Michel Foucault dans Surveiller et punir qui parle de la place de ces faits divers et de quelle catégorie il crée, de quelle figure du délinquant il crée. À cela s'ajoutait une longue entreprise pour imposer à la perception qu'on avait des délinquants une grille bien déterminée, les présenter comme tout proches, partout présents et partout redoutables. C'est la fonction du fait divers qui envahit une partie de la presse et qui commence à avoir ses journaux propres. Le fait divers criminel, par sa redondance quotidienne, rend acceptable l'ensemble des contrôles judiciaires et policiers qui quadrillent la société. Il raconte au jour le jour une sorte de bataille intérieure contre l'ennemi sans visage. Dans cette guerre, il constitue le bulletin quotidien d'alarme ou de victoire. Le roman criminel, qui commence à se développer dans les feuilletons et dans la littérature à bon marché, assume un rôle apparemment inverse. Il a surtout pour fonction de montrer que la délinquance appartient à un monde entièrement autre, sans relation avec l'existence quotidienne et familière. Cette étrangeté, ce fut d'abord celle des bas-fonds, puis celle de la folie, enfin celle du crime doré, de la délinquance de haut vol. Les faits divers, joints à la littérature policière, ont produit depuis plus d'un siècle une masse démesurée de récits de crimes, dans lesquels surtout la délinquance apparaît à la fois comme très proche et tout à fait étrangère, perpétuellement menaçante pour la vie quotidienne, mais extrêmement lointaine par ses origines, ses mobiles, le milieu où elle se déploie, quotidienne et exotique. Par l'importance qu'on lui prête et le faste discursif dont on l'accompagne, on trace autour d'elle une ligne qui, en l'exaltant, la met à part. Dans cette délinquance si redoutable et venue d'un ciel si étranger, quel illégalisme pourrait se reconnaître ? La dernière phrase, elle est quand même intéressante parce qu'effectivement, on peut se dire que les premiers à ne pas se reconnaître dans cette définition de qu'est-ce que c'est que la délinquance, c'est les délinquants eux-mêmes, quoi. Et que, effectivement, aucun illégalisme ne se retrouve vraiment dans la manière dont on en parle. On approche de la fin de l'émission. On voulait finir par parler des tentatives de contre-pouvoir qu'il pouvait y avoir face aux médias. Et Jérôme Berthaud, il va nous raconter une histoire qui a concerné le quartier de Villeneuve, où les gens se sont un peu levés contre une image qu'avait donnée de ce quartier envoyé spécial. Et nous, on voulait parler très rapidement aussi des tentatives qui avaient pu être faites dans les zones dans les zones libérées que sont les ZAD. Où effectivement, après quelques articles assez désastreux ou quelques reportages télé assez désastreux, les gens ont décidé d'arrêter de se laisser faire. Et du coup, ils ont développé certaines manières de prendre le contrôle un peu sur l'image qu'on donne d'eux.
Ouais, c'est ça. C'est pas tant des contre-pouvoirs qu'une tentative de, enfin une tentative même chercher à maîtriser l'information qui est produite sur nous, en fait. Et donc c'est une maîtrise de l'information qui est une richesse cruciale de quelques mouvements révolutionnaires que ce soit. Et donc voilà, c'est des tentatives qui sont assez intéressantes. Alors après, il y a différentes approches quand même, parce que tu parles des ZAD ou même les mouvements contemporains. Il y a ceux qui vont décrier les médias dominants et qui vont tenter de mettre en place des médias alternatifs. Mais qui n'ont en général aucun audit, ou presque, et ceux qui prétendent produire et maîtriser le flux d'informations, et c'est-à-dire donner clé en main l'information aux journalistes et de faire en sorte du coup que ce qui est dit sur nous ça soit pas ni insultant ni affaiblissant ni humiliant ni quoi que ce soit. Et donc il y a quand même une opération un peu qui est à la fois politique mais qui est aussi un peu d'ordre plus sensible, qui est une opération de dignité un peu. C'est ce qu'on va voir avec la Villeneuve où les gens, ça leur permet de relever un peu la tête, quoi, de saisir de l'information qui est faite sur eux.
Entre autres, du coup, sur les ZAD, par exemple, n'importe quel journaliste ne pouvait pas débarquer n'importe quand. Il y avait eu des moments faits, des gens qui étaient là pour les recevoir, etc. Et on sait aussi qu'ils se sont fait simplement reconduits à la frontière ou dégagés un peu plus violemment parfois quand ils refusaient de se tenir à ça. Et récemment, on a pu lire dans Valeurs Actuelles, qui est un magazine d'extrême droite, un reportage fait sur les ZAD. Et on voit ce que ça donne, du coup, quand l'information... cette tentative d'humiliation de la part des journaux, entre autres d'extrême droite. On vous a lu un petit extrait pour vous le montrer.
Pour s'épargner un flicage humiliant et faire un véritable travail d'information sur ce nouveau laboratoire de l'ultra-gauche, une seule solution, s'y infiltrer. La canette de bière est le principal accessoire de notre déguisement. Il ne faut la lâcher sous aucun prétexte et toujours en offrir pour dissiper les soupçons d'une communauté fortement paranoïaque, mais sensible aux boissons fermentées. Une bonne partie des zadistes vadrouillent pieds nus, comme les hobbits de Tolkien. Certaines filles ont du poil sous les bras, comme leur grand-mère en mai 68. Au milieu des garçons torse nus, une jolie fille, mal affranchie des préjugés sexistes, conserve un soutien-gorge. Partout, filles et garçons jouent de la pelle et de la pioche. Baptisent des cabanes, à mi-chemin entre Robinson Crusoe et les chantiers de jeunesse du maréchal Pétain. En son temps, Lénine qualifiait cette ultra-gauche de « maladie infantile du communisme ». Depuis la chute de l'URSS, sous la forme de l'altermondialisme, elle offre une idéologie de substitution aux militants en manque d'utopie. Une sorte de méthadone pour vieux camés du marxisme.
Ça y est, c'est fini. J'habite plus dans ma cité de merde. Non, c'est devenu trop chaud. J'ai vu un reportage sur TF1. À ce qui paraît, dans ma cité, il y a des réseaux islamistes de drogue. Mais oula, le reportage, il était flippant, sérieusement. Le journaliste, il faisait flipper. Il avait une voix qui faisait peur. Il était caché derrière un petit buisson pendant tout le reportage, comme ça.
Et dans cette cité anormalement calme, trois dangereux caïds rôdent.
Ils sont obligés de commencer le reportage par cité anormalement calme, dangereux caïds, tout ça. Parce que s'ils commencent le reportage par dans cette cité où tout se passe bien, Trois jeunes joueurs à la marelle, les gens, ils en ont rien à foutre. Ils passent sur Maïté direct.
Et nous retrouvons nos trois dangereux caïds dans leur marche illicite et dangereuse. Ils se dirigent vers une cabine téléphonique, probablement pour la cambrioler.
Ah non, ils téléphonent.
Mais c'est certainement pour appeler de dangereux dealers qui leur livreront plusieurs kilos de drogue islamiste. Leur business leur rapporte par jour plus de 12 000 euros.
J'ai souvent entendu la télévision, et après cette page de pub, encore plus de jeunes et encore plus de crimes. J'ai compris leur technique, moi, en fait. Ils nous vendent de la peur pour mieux nous vendre du dentifrice derrière. Chérie, regarde. Regarde qu'est-ce qui se passe à la télévision. C'est des dangereux dealers que je suis en train de cambrioler. Regarde, tu vas voir. Attends 2 minutes, il y a la pub. Pas plus. 2 minutes, la pub. Mais il est super, ce dentifrice! Ah, ça, c'est sûr, je l'achète! Chérie, tu me prends pas ça prendre des tenues gencives avec de la bombe acrymogène.
Et voilà, et pour finir, on va écouter Jérôme Berthaud qui nous raconte du coup cette histoire du quartier de la Villeneuve.
La Villeneuve a été construite au sud de Grenoble en 1973. Des barres d'immeubles et des kilomètres de béton. Aujourd'hui, 14 000 habitants y vivent, c'est une ville dans la ville. À ses débuts, le quartier faisait figure de cité modèle. Aujourd'hui, il est synonyme d'échec et de ghetto. Mais la Villeneuve mérite-t-elle vraiment sa mauvaise réputation? Pour comprendre ce qu'il se joue à l'ombre de ses tours, j'ai décidé de rencontrer ses habitants. Malgré les mises en garde, trop dangereux, trop compliqués, je passerai du temps dans ce quartier et ne filmerai qu'en caméra ouverte.
Concrètement, donc, c'est un reportage qui a été diffusé en septembre 2013 et qui était présenté, en tout cas c'est le lancement de Guylaine Chenu, comme un bilan après une série de faits divers dramatiques, de drames, même plus que de faits divers, puisqu'il y a la mort de Kevin et Sofiane, deux jeunes de la ville d'Échirolles, qui ont été tués par un groupe de jeunes qu'on dit originaires de la Villeneuve. Et donc ça, plus tout autre fait divers dramatique qui avait eu lieu dans le quartier, qui est un très grand quartier de 12 000 habitants, conduit, motive envoyé spécial à faire un reportage présenté comme un an après la mort de Kevin et Sofiane, que devient le quartier de la Villeneuve, et surtout qu'est devenu ce quartier de la Villeneuve qui était présenté comme un quartier d'innovation sociale très innovant sur le terrain social, culturel, sportif, etc. Ils voulaient être une utopie urbaine. Même si en arrière-plan, il y a l'histoire du fait divers, il y a l'idée quand même qu'on va tirer un bilan sur plein d'aspects différents. Et en fait, les habitants de la Villeneuve que moi j'ai pu rencontrer ont vraiment cru à ce projet de reportage. C'est-à-dire que globalement, ils refusent de parler aux journaux, aux journalistes, parce que il y a eu beaucoup de reportages sur la Villeneuve et sur la délinquance, les déviances à la Villeneuve, et qu'ils ne souhaitent plus que cet aspect-là de leur quartier soit mis en valeur, parce que pour eux, ça, c'est une réduction de sens, une réduction de la réalité de leur quartier à quelques facettes de leur quartier. Et donc, beaucoup de ceux qui ont parlé en voie spéciale refusent habituellement de parler aux journalistes. Là, ils ont accepté parce qu'on leur a présenté ce projet de reportage qui devait essayer de saisir, d'embrasser un ensemble de réalités sociales beaucoup plus diverses. Et aussi parce qu'ils ont accepté parce que c'est le service public de l'information. Et donc, ils ont été très déçus quand ils ont vu le reportage, parce qu'effectivement, ce reportage de 26 minutes, il ne parle que de déviance.
Pour témoigner de cette violence, je me rends à la Villeneuve à la nuit tombée. Une fois que les mères de famille et les enfants sont rentrés chez eux, une poignée de jeunes prend possession des lieux.
Et les habitants se sont sentis trahis. Et donc, on demandait des explications en envoyé spécial, on fait des pétitions, on fait des mobilisations pour essayer d'avoir un droit de réponse, pour au moins avoir un débat avec les deux présentatrices de l'émission. Et en fait, elles n'ont répondu que par médias interposés. Donc, devant cette incapacité d'avoir une discussion, un échange, ils ont décidé d'aller au procès. Donc, il y a eu un procès, une plainte déposée en décembre 2013 et un procès en mai 2014 et une décision de justice qui conduit en fait à débouter les habitants de leur demande, puisqu'ils sont constitués, ils sont appuyés sur une association pour déposer plainte, et le tribunal a considéré que comme l'association n'était pas elle-même visée par les propos du journaliste, de la journaliste dans le reportage, l'association n'était pas fondée en droit à porter plainte. Donc, mais toujours est-il qu'il y a eu donc cette mobilisation ce qui était important pour les habitants, c'est qu'ils ont pu faire valoir leurs arguments, se défendre. Il y a une grosse couverture journalistique du procès. Et surtout, d'un point de vue de la connaissance des pratiques journalistiques, les habitants ont pu voir produit le contrat de production. Et donc on voit surtout ce qui est intéressant, c'est que le contrat de production, on se rend compte qu'il a été signé avant que la journaliste aille faire ses premiers repérages dans le quartier. Il est signé en décembre 2013. Non, il est signé en décembre 2012 et les premiers repérages sur place ont lieu en janvier 2013. On se rend compte que l'intitulé provisoire du reportage production, c'est La ville neuve de l'utopie à l'enfer ou de l'utopie au cauchemar, c'est une des deux versions, je ne sais plus, qui en plus reprend un titre d'un article de Valeurs Actuelles. Donc journal classé à droite, voire à l'extrême droite quand même, ça a été une surprise pour les habitants.
Trois coups de 9 mm tirés au pied des tours. Malgré les détonations cette nuit-là, personne ne préviendra la police.
Voilà. Donc au moins ils ont pu, avec ce procès, avec cette mobilisation, démêler un peu les logiques de production et quelque part les comprendre mieux.
Il y a eu des formes de mobilisation collective, tu disais, il y a eu des manifs, des trucs comme ça aussi.
Alors ils ont organisé des projections, ça c'était très intéressant. Ils ont fait des projections collectives du reportage en veille spéciale. Et donc il y avait en plein après-midi, je sais pas, 80-100 personnes, surtout des retraités, parce que voilà, les gens bossent, contrairement à ce qu'on nous raconte, il y a quand même des gens qui bossent dans les quartiers populaires, mais des retraités qui voulaient manifester leur colère face à ce reporter, dans ce reportage, alors que dans le reportage, on vous expliquait plutôt que les retraités, ils étaient principalement du côté des victimes, des jeunes, et qu'ils vivaient terrorisés chez eux. Et ce qui était intéressant, c'est que c'était un très bon exemple de production d'une intelligence collective. Le fait que on regarde collectivement un reportage, chacun était capable, comme eux connaissent très bien leur quartier, de dire « Ah, mais telle scène a été tournée en bas de tel immeuble » et juste après, on a l'impression que la scène se passe à côté, mais en fait, l'autre scène se passe à l'autre bout du quartier. Et on voyait les effets de juxtaposition des plans, de montage, en fait. Ils étaient capables de décrypter tout le dispositif, toutes les techniques de montage qui donnaient à voir un quartier, on avait l'impression, assailli par la violence, alors que c'était des scènes qui pouvaient avoir été tournées à différents endroits, à différents moments, ou qui, au contraire, étaient présentées comme situées à différentes périodes. Or, en fait, tout se passait au même moment. Le tribunal de Grenoble a pris une salle de 50 places, apparemment, pour faire l'audience. Donc, il y avait plus de 200 personnes, donc l'essentiel des gens n'ont pas pu rentrer. Ça aussi, ça pose question quand même sur la possibilité d'avoir une justice qui est rendue devant les gens qui sont concernés quand vous avez des salles de sont si petites. Donc vous avez des habitants qui étaient quand même très énervés contre le tribunal de Grenoble avant même que la décision soit rendue parce qu'ils n'avaient pas pu assister au procès de l'affaire qui les concernait. Donc vous avez beaucoup de gens dans les couloirs qui n'avaient pas pu rentrer, qui témoignaient des effets du reportage, c'est-à-dire le fait que vous avez des gens de leur famille qui les avaient appelés en disant « Ah là là, c'est incroyable, on reste pas à la vie neuve, tu peux pas continuer à habiter là. » Et surtout, on sait que ça a des effets, des tas d'effets, ça a des effets sur le prix de l'immobilier. Alors le reportage pointait le fait que les gens n'avaient pas à partir parce qu'ils n'avaient pas à vendre leur appartement quand ils étaient propriétaires. On imagine bien qu'après ce reportage, ça a contribué un peu plus à dévaloriser le prix du bâti local. En tout cas, France 2 y a contribué à son petit niveau aussi. Et puis voilà, toutes les discriminations à l'embauche, toutes ces choses-là sont très connues, en fait. Donc, on sait que pour les habitants du quartier, ça va être compliqué. Donc, en fait, c'est ça qui est étonnant, c'est que vous avez des journalistes qui sont au courant de ça. Ils savent. Quand vous faites des entretiens individuels avec des journalistes, ils sont au courant que les reportages ont des effets sur la vie des gens. Les présentatrices dans les spéciales valorisent plutôt le fait que ça a des effets salvateurs parce qu'on montre les vrais problèmes. Alors elle adore reprendre la phrase de Albert Londres, on met la plume dans la plaie, et grâce à cette lumière qu'on fait jaillir sur des problèmes, eh bien les pouvoirs publics vont s'en emparer et ça va permettre au final d'arranger le sort des habitants.
Nous, on pense souvent aux effets policiers et sécuritaires aussi que ça peut avoir. Quoi. Genre là, la médiatisation
de Grigny. Peut y avoir en plus quand le pouvoir public s'empare de cette question-là. Quand c'est qu'en termes de fonctionnement, dysfonctionnement, du point de vue de la sécurité, du point de vue de l'école, du point de vue de
La seule réponse, c'est une réponse policière, mais qui est déjà là, c'est ça qui est surprenant.
Quand la police se prête à ce type de tournage, c'est-à-dire que la scène d'ouverture du reportage, c'est une patrouille de police dans le quartier, probablement qu'ils sont peut-être aussi en négociation pour avoir plus de force à Grenoble. La mise en scène de la propre insécurité. La propre insécurité. Et ça, c'est des hypothèses, je ne peux pas affirmer que ça a été sciemment pensé comme ça.
Souvent, ce qu'on fait, c'est que les espèces de pistes de contre-pouvoir qu'on repère quand on parle de répression, de sécurité, etc., on en parle souvent à la fin parce que c'est ce qui nous donne un peu de l'espoir. Ouais, c'est quelles sont les pistes à tirer.
Non, mais après, c'est un super truc, hein, le truc de la ligne d'avant. C'est une super expérience.
Ouais.
Et puis, ils se sont sentis un peu plus dignes de cette histoire. Enfin, je veux dire, les habitants, parce qu'ils ont été, ils ont l'impression d'avoir été trahis, d'avoir été un peu dupes aussi. Du jeu des journalistes et de France 2. Donc, quelque part, avoir une forme de revanche médiatique, je pense que pour l'estime de soi, c'était très important. De se dire, on ne s'est pas laissé faire.
Le RSA, que de la zingue. Ouais. Hey. Que de la zingue.
Sur le versant du Vercors.
Et on écoute les Bad Boys de Grenoble et Vacarme en Réunion, c'est fini.
Ouais.
On se retrouve dans 15 jours. La semaine prochaine, c'est Terrain Vague. Et vous pourrez retrouver toute l'émission sur tvnr.noblogs.org. Et voilà. Salut à tout le monde.
Ciao à tous.
Les crétins dans les Alpes, ça atteint des sommets, sans sortir bien loin. C'est assommant quand vient la nuit, les néons du nouveau hôtel paraissent au centre de la terre, si limpide et familier. Et les arbres découpés par les lumières artificielles sont des nourrices urbanisées que l'on croit prendre pour le ciel. Un choubidou vend du pédo devant Boudoudou. Un rododou sur un brebiou à Dubedou. De Boudoudou à Dubedou. Que de la zingue et de la zaze, à toute berzingue dans une kangou.
Et si, encercle les pensées, les sols se dérobent et la jeunesse est dorée. Et si les fleurs aux fusils sont fanées, ici bas il restera toujours des canons à vider, des patrons à vider, des cons qui donnent leur avis. Ah ça c'est sûr, et si les murs s'effritent à cause des averses, ici bas y'a pas d'ouverture que des bêtes en cage, des caves à la toiture. On élève des murs, on achète la nature, réouvre les sutures, le futur pensé dans des obscurs sucures. Salles où des morts autour des tables recherchent un emploi stable. On joue sa vie pour écrire des histoires affamées, on tue sa vie dans des travails infâmes. Je tente de pas me faire bouffer quand tout le monde a la dalle et je sévis, non pas par ennui, même si c'est la nuit que mes envies prennent vie. Jure là la lune, m'en rappelle en partie, la fête dans la brume, j'assume ma sottise. Je travaille ma plume, mais jamais une pactise, trouve des portes de sortie pour la haine qui m'attise.
Les trottoirs du 3-8, là où le tram s'effrite, dépression chronique sur une barrette de shit ou une barquette de frites. À la sauce samouraï, samouraché avec l'asphalte, l'asphyxie carcérale, architecture y est fécale. Fiscalité locale, les tours phalliques délétères de ton logement social. J'claque la porte quand crapotent les crapauds grenoblois. Minatec, mi-molette, mi-Schneider, mi-CEA. Ouais, des tonnes de béton pour des tas de bêta. Des brouettes de neuneux sur le boulevard Gambetta. Dans tout le cœur d'agglo, des pseudo-écolo has-been. Que des bobos agglomérés qui s'agglutinent à la bobine. Dans toutes ces boîtes de nuit, du tracard à l'ampérage. Où les vigiles sont plus violents que tous les ultras du stade des Alpes. Pas de chauvinisme dans ce rap, mais un relent de vulgarité. J'encule Grenoble et sa mairie dans chaque recoin du...